Réplique, la Russie d'aujourd'hui, avec Hélène Carrière-Dancos et Françoise Thom. Comme tous mes concitoyens, je me pose des questions sur la Russie post-soviétique et post-helsinienne. Il y a des élections, le peuple est régulièrement convié à choisir ses représentants et son grand dirigeant, mais cela suffit-il à faire de la Russie une démocratie ou faut-il parler à son propos de démocrature ? Vladimir Poutine a-t-il rompu l'alliance du progrès et de la servitude qui fait, selon Vassili Grossman, la singularité fatale de l'histoire russe, où son règne est-il en train de la perpétuer? L'homme fort du Kremlin est-il un adversaire de l'Europe, et plus généralement de la civilisation occidentale, ou l'allié de l'Occident dans sa confrontation avec l'islam radical? Pour tenter d'y voir clair, j'ai invité aujourd'hui deux grandes spécialistes du monde russe. Hélène Carrère-Dancos, dont le dernier livre très éclairant porte sur les rapports du général de Gaulle et de la Russie, et Françoise Thom, qui publie « Comprendre le poutinisme ». C'est à vous, Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, que s'adresse ma première question. Dans un entretien donné au Figaro, vous affirmez qu'il ne faut pas juger le pouvoir autoritaire de Poutine à l'aune de nos propres critères. Quels sont donc les bons critères et quel est votre propre jugement ? Hélène Carrère-Dancos.
Bon, ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'il ne faut en effet pas juger parce que la Russie est un pays d'une singularité extrême. C'est un continent qui ne ressemble à aucun autre pays. C'est aussi un continent de malheur dont l'histoire a été effroyablement troublée, qui a été arraché, je dirais, à la civilisation occidentale à laquelle la Russie a appartenu, à laquelle la Russie entend appartenir, qui lui a été arraché pendant près de 3 siècles. À l'époque où nous connaissions la Renaissance, je dirais une évolution tout à fait intellectuelle et politique bouleversante, et qui lui a été arraché 75 ans par le régime communiste, et qui sort véritablement de la dernière période d'arrachement, un quart de siècle de sortie, au regard de 3/4 siècle de système soviétique et d'arrachement.
Deux périodes d'arrachement, dites-vous, c'est ça. À quand remonte la première période ?
La première période, c'est du 13e au 16e siècle, c'est la période mongole. Et la Russie appartenait au monde occidental. Bon, elle était ouverte. Elle en a été coupée. Elle en a été coupée pendant 75 ans ensuite. C'est énorme, absolument. Et une fois encore, je dirais que c'est un pays qui tend vers le... qui appartient à l'Europe, qui se sent européen, de civilisation européenne, mais que l'histoire a écarté d'une façon constante. Et la géographie contribue d'ailleurs à ça, puisque la géographie fait peser la Russie vers l'Asie, il n'y a pas de doute. La plus grande partie du continent est asiatique, les ressources sont asiatiques, et je crois que c'est un énorme problème dans le monde contemporain.
Oui, mais alors, quand vous dites ne pas juger à l'aune de nos propres critères, en raison de cette histoire et de cette géographie, mais je vous répète ma question, quels sont les bons critères et quel est votre jugement, Hélène Carrère-Dancos ?
Je dirais que les bons critères, c'est de regarder la situation réelle de ce pays, c'est-à-dire une génération qui n'a connu que le passé soviétique, qui en sort difficilement, qui a cru, et alors là, les 25 ans qui se sont écoulés ne sont pas 25 ans, il y a eu 10 ans de chaos, les 10 ans helsiniens, il reste 15 ans, extrêmement peu. Il faut attendre qu'une nouvelle génération émerge, incontestablement, qu'il soit élevé dans un monde différent. Ça, c'est un premier critère. Un second critère, c'est que, une fois encore, vous parlez de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est un homme qui a grandi dans le système soviétique, c'est un enfant du système soviétique, d'un système dans lequel un homme de sa génération avait des parents qui n'avaient connu que le système soviétique et pas de grands-parents pour lui enseigner autre chose. Enfin, c'est un enfermement dans cette singularité. Et je crois que ça, il faut le comprendre. Il faut comprendre que, et je reviendrai là-dessus, même Vladimir Poutine a essayé d'aller vers l'Europe. Il a échoué, mais il a essayé. Donc, il faut faire attention à tout cela.
Vous seriez d'accord ?
Pas entièrement. Je rappellerai quand même que la principauté de Moscou s'est construite en s'appuyant sur les Tatars, contre l'Europe, enfin contre ce qui était l'Europe à cette époque, et que elle s'est agrandie en éradiquant justement les éléments européens qu'il y avait dans les principautés qu'elle a conquises, comme Novgorod par exemple. Donc il y a un fond anti-occidental dans l'État moscovite, hein, parce que la Rousse kievienne, c'est autre chose, mais cet État moscovite a été profondément influencé par la structure de l'Empire, de la Horde d'Or, et il a un petit peu intériorisé cette structure, hein, c'est la double influence byzantine et tatare, et ces deux influences se sont combinées. Donc on ne peut pas dire que la Russie moscovite ait fait le choix de l'Europe. Non, elle s'est construite à partir d'abord les princes moscovites étaient les collabos des camps tatars, et ensuite elle s'est construite quand même contre l'ensemble polono-lituanien et contre l'Europe. Donc cette tradition-là, il ne faut pas l'oublier. Par ailleurs, je pense qu'il est dangereux de dire que les lois communes de l'humanité ne s'appliquent pas à la Russie. Les Russes ne le croient que trop souvent. Et je pense que ce n'est pas vraiment rendre service à la Russie que de lui dire que qu'elle est à part, qu'il y a une troisième voie russe. Ce genre d'idées ont déjà suscité des... Justement, je pense qu'elles sont à l'origine de ce malheur russe. Je suis bien d'accord avec vous que l'histoire de la Russie est une histoire malheureuse. C'est un pays qui était toujours divisé, qui avait du mal à trouver une identité nationale, en fait.
Oui, mais quand vous dites, François Storm, que la Russie n'est pas à part, c'est vrai, elle n'est pas à part, disons. Effectivement, les lois communes de l'humanité s'appliquent à toute l'humanité, simplement, elle a sa propre histoire. Est-ce qu'on peut sortir du communisme et passer directement à la démocratie représentative?
Non.
Est-ce qu'il ne faut pas penser qu'il y a des transitions et qu'effectivement, peut-être, un pouvoir autoritaire est nécessaire, François Storm?
Oui, la sortie du communisme, on le voit d'ailleurs. Et plus le temps passe, je dirais, plus on voit à quel point on était exagérément optimiste en 90, 91, 92, quand on pensait qu'il suffisait d'avoir des élections et de passer à l'économie de marché, en fait, pour que tout s'arrange. En fait, on voit que les blessures laissées par le communisme sont beaux. D'ailleurs, je n'ai jamais partagé cet optimisme. Moi, j'ai toujours pensé que la sortie du communisme serait très difficile. Et plus le temps passe, plus on s'aperçoit que les dégâts laissés par le communisme sont profonds. Et ce sont des dégâts qui ont un impact à la fois sur la société, mais aussi sur le pouvoir, la structure du pouvoir. Il y a des pesanteurs, une inertie post-soviétique que le temps n'a pas l'air d'effacer.
Je voudrais d'abord faire une remarque sur ce que vous avez dit avant. Vous avez tout à fait raison que le pouvoir tatar a marqué la Russie, mais le pouvoir tatar, c'est pas la Russie, c'est justement le malheur de la Russie. C'est ça la vérité. Et Byzance, c'est tout de même la chrétienté. On ne peut pas considérer que c'est un univers de sauvages qui l'écartait complètement du monde occidental. Donc je crois qu'il faut être très prudent là-dessus. La Russie a subi les tatars. Et ça a sauvé le monde occidental parce que cet immense espace a retenu les Mongols. Et si nous nous sommes épanouis si somptueusement, c'est précisément parce qu'il y avait ces délices de capoue pour les Mongols. Alors, on peut dire, il faut tout de même faire très attention à ça. Ça n'enlève rien à l'aspiration russe vers l'Occident et à la nature occidentale de la Russie, qui était antérieure aux Tatars. Bon, pour ce qui est de la sortie du communisme, qui a vu véritablement les années 85-90, il se passait quelque chose d'extraordinaire en Russie. Il y a eu un élan incroyable. Moi, je l'ai vécu sur le terrain. Ça ressemblait à tout ce que l'on peut imaginer des mouvements de 1848, de tout ce que l'on voudra. Bon, ça s'est cassé sur plusieurs choses. Moi, je pense à une remarque que faisait toujours Boris Eltsine. Il disait, Je n'ai pas été élevée. J'ai été élevée dans le système communiste. Je suis un apartheid. J'ai pas été élevée pour le ni pour construire la démocratie. Je ne sais pas comment on fait. Et j'ai pas été élevée pour construire l'économie de marché. Moi, je suis convaincue que si nous avions le monde occidental avait encadré la Russie, s'il lui avait donné un coup de main en 1990, comme il l'a fait pour les États de l'Est européen. Et la Russie, elle s'est débrouillée comme elle a pu. Elle ne savait pas comment faire. Eltsine le dit. Alors, ne sachant pas comment faire, il a embauché des jeunes Américains extrêmement aimables de l'école de Chicago qui lui ont expliqué comment on faisait l'économie de marché d'un coup brutalement, en détruisant la société, en la ruinant. Bon, la démocratie, c'est, je dirais, les institutions démocratiques. C'est principalement la France qui a aidé à les construire. Nous avons aidé à construire la constitution russe qui a des qualités. Après, on applique les constitutions, mais c'est un autre problème. Le tout a entraîné un chaos formidable, et notamment, la solitude russe et les conseils de gens totalement inconscients. Enfin, c'était tout à fait saisissant sur place de voir comment ils expliquaient qu'on tue le communisme en lâchant tout, en lâchant toutes les contraintes, en lâchant les prix. La société se trouvait désemparée devant le pillage du pays, d'abord, ce qui a été quelque chose d'épouvantable. Le pillage du pays, on aurait pu essayer d'aider. La société, on l'a regardé avec beaucoup d'intérêt, on n'a rien dit. Le pays a été seul. Et moi, je voudrais revenir sur un point auquel je tiens beaucoup. S'il y a eu tout de même cette émancipation des peuples, si le communisme s'est arrêté, c'est pas par un miracle. Il n'y a pas eu des armées occidentales pour mettre fin au communisme. Quoi que dise Reagan, c'est pas lui qui les a mis à genoux. Ils se sont mis à genoux tout seuls. Et un homme comme Gorbatchev a fait beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a eu un ras-le-bol, le sentiment que c'était fini. Bon. Et les Russes ont le sentiment qu'ils ont accompli quelque chose d'extraordinaire. Et que personne ne leur en sait gré. Que les anciens sujets de la fédération, les États sujets de la fédération, dont personnellement je comprends parfaitement la rancœur. Il n'y a pas de problème. Enfin, quand on a été opprimé, on n'aime pas beaucoup l'oppresseur. Ça va très bien. Mais nous avons un autre regard. Nous n'avons pas été opprimés par le système soviétique. Nous étions dehors. Les Russes ont le sentiment que personne ne comprend ce qu'ils ont lâché. Qu'ils ont lâché une partie de l'Empire, qu'ils ont tout lâché. Qu'ils l'ont fait volontiers d'ailleurs, parce que plus personne ne s'accrochait à ça. Mais une fois que c'est terminé, personne ne se dit, mais tout de même, ils sont extraordinaires, ils ne se sont pas entretués, comment est-ce qu'ils ont fait ? Et il y a eu quelque chose d'historiquement fantastique. Enfin, pensons à la fin du régime nazi. Le régime nazi, il a fallu une guerre mondiale pour y mettre fin, après 12 ans. Après 75 ans, la fin du système soviétique a été admirable, de tranquillité, de manque de vengeance. Enfin, il y a quelque chose d'impressionnant quand on y repense.
Je ne pense pas que l'attitude occidentale ait été pour grand-chose dans les problèmes qu'a connus la Russie dans les années 90. Et je m'inscris quand même un peu en faux contre cette expression de la Russie agenouillée. Quand elle a sorti du communisme, elle n'était pas, c'était une victoire pour tout le monde. Les Russes étaient débarrassés du communisme, c'était pas quand même une mince affaire.
Ils s'en sont débarrassés tout seuls.
On pourrait en savoir gré. On ne peut pas considérer ça rétrospectivement comme une catastrophe, comme le fait Poutine. Non, c'était une bonne chose pour la Russie d'être débarrassée du communisme. Alors, s'il y a eu des erreurs, je suis également d'accord que les Occidentaux ont commis des erreurs, mais pas tout à fait dans le même sens. Je pense que les Occidentaux ont eu une approche trop technocratique de la Russie. Ils se sont dit, on passe à l'économie de marché, on va aider les Russes à construire cette économie de marché, et le reste viendra tout seul. Hein, la démocratie, tout ça, ça viendra tout seul une fois que l'économie de marché sera en place. C'était un peu le consensus de Washington, hein, comme on disait. C'était une erreur. On a sous-estimé l'importance de la construction d'institutions. Et en fait, les Occidentaux ont cru, c'est la grande erreur, par exemple, aussi de Bill Clinton, qu'il fallait appuyer Boris Yeltsin à tout prix, même dans ses tendances autoritaires, justement quand il a chassé le Parlement à coups de canon, hein, c'était quand même un précédent fâcheux pour la démocratie russe. On a cru pouvoir passer à l'économie de marché grâce à un raccourci en soutenant le pouvoir autoritaire de Boris Yeltsin. Alors là, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur qu'ont commis à la fois les réformateurs russes, qui s'accommodaient très bien d'un pouvoir autoritaire pourvu que cela stimule les réformes. Et c'était une erreur très profonde de négliger la construction d'institutions. Et ce pouvoir autoritaire qui a émergé sous Boris Yeltsin, finalement, il a été ensuite investi par Vladimir Poutine, qui était physiquement beaucoup plus capable de le faire fructifier, si je puis dire.
Mais dans votre livre, François Stomme, vous dites que les Russes eux-mêmes, et j'aimerais que vous commentiez l'une et l'autre cette réflexion, les Russes eux-mêmes n'étaient pas prêts pour ces institutions, pour cette démocratie. Vous écrivez en effet, l'idée de représentation n'a de sens que si l'on postule que les hommes sont doués de raison, qu'ils veulent le bien et leur bien, que le droit naturel existe, que la notion de bien commun a un sens. Le penchant des citoyens post-communistes pour les régimes autoritaires s'explique par ce fond de haine et de méfiance résultant de décennies d'existence passées sous le communisme. Il est illusoire de vouloir mettre en place un régime représentatif quand les citoyens vivent dans l'idée que l'homme est un loup pour l'homme. Donc ça, c'est ça finalement,
oui,
l'héritage.
C'est ça, et c'est contre ça qu'il aurait fallu combattre. Et on n'a pas vu que le problème était là. Et oui, justement, il aurait fallu mettre en place tout un programme d'instruction. Et on a complètement négligé cet aspect-là. Le problème moral, les ruines morales laissées par le communisme.
Vous seriez d'accord?
C'est ce que j'appelle l'approche technocratique. On a eu une approche technocratique, on n'a pas vu le fond du problème qui était moral.
On n'a pas totalement manqué de lucidité. La preuve, je dirais, et je crois une fois encore que les Français ont essayé de jouer un rôle, car ce sont les juristes français qui ont contribué à forger les institutions russes. Et là, une fois encore, la constitution russe est une constitution décente et les institutions existent. Après, il y a ce qu'on en fait, ce qui est un autre problème. Mais elles sont là, elles auraient pu très bien fonctionner. Bon, de la même façon, il y a eu véritablement un effort qui a été fait, je dirais, pour former, mais on n'a pas vu l'ampleur du problème. Il n'y avait pas d'État pendant 75 ans. Il y avait un parti qui s'intitulait État. Bon, les structures d'un État, ce ne sont pas les structures d'un parti. On s'est dit, ça n'a pas beaucoup d'importance, ces gens n'ont pas d'administration, ils n'ont rien. Et on ne s'est pas rendu compte que quand il n'y a pas d'État, il y a tout simplement les filous. Les débrouillards, ça a entraîné le pillage du pays, ça a entraîné aussi, je dirais, une corruption absolument monumentale. Et ça, je dois dire, j'y insiste beaucoup, la Russie a une vieille tradition de corruption. C'est un peu génétique, ça fait partie de l'histoire de ce pays immense. Ça remonte à un passé extrêmement lointain. Gogol en a très bien parlé, mais bon, et le régime soviétique était un régime de corruption, il n'y a pas de doute là-dessus. Et je dirais que les pilleurs du pays sont sortis véritablement du régime soviétique, ou se sont alliés avec les survivants du régime soviétique pour piller le pays.
C'était les mêmes, souvent.
Bon, tout ça, c'est un tableau absolument catastrophique. C'est là qu'on aurait peut-être pu aider le pays, on ne l'a pas aidé, et je crois que c'est un problème absolument monumental. Et cela dit, nous, une fois encore, le temps est extrêmement court. Nous avons affaire à des gens qui sont sortis du système soviétique et qui ont été complètement désemparés. Alors, il y a un point sur lequel je voudrais revenir. Vous avez dit, Poutine déplore la fin du régime soviétique. Ce n'est pas parce qu'il a fait une phrase, qu'il a d'ailleurs complétée, que les gens qui regrettent le système soviétique n'ont pas de cœur et que ceux qui ne le regrettent pas n'ont pas de tête, ou l'inverse. La vérité, ce qu'il a voulu dire, c'est que ce qui est arrivé à ce pays, c'est une décomposition totale. Une décomposition totale, ce pays n'a plus été lui-même en sortant de là. Et il n'a plus été lui-même, enfin je voudrais tout de même qu'on se rende compte, les gens qui avaient vécu en Union soviétique, même si le système était épouvantable, même si tout le monde n'était pas lucide d'abord, enfin, c'était... Ces gens se sont réveillés un beau matin dans un pays amputé de 20% du territoire.
Mais immense quand même.
Absolument immense.
Le plus grand, un pays reste, amputé, mais qui est le pays reste, le plus grand.
Qui reste le plus grand pays de la Terre.
Oui.
Et c'est aussi, je dirais, un facteur dont il faut tenir compte. C'est un, comment est-ce qu'on gouverne le plus grand pays de la Terre? Ça, c'est un problème qui se pose constamment. Mais je crois que ce qu'il faut tout de même avoir présent à l'esprit, c'est le désarroi de cette société qui a eu le sentiment que quelque chose s'était passé. Ces gens ne sont pas ignares. Ils se sont rendus compte que le système totalitaire était mort par leur propre volonté, enfin qu'ils l'avaient accompagné, parce qu'ils l'avaient, ils ont accompagné cette fin. Et puis, bon, tout se passe comme si on leur en a jamais fait aucun crédit. Je ne connais pas une publication qui dise, ils sont tout de même c'est formidable que ces gens ne se soient pas entretués, qu'ils n'aient pas réglé de compte. C'est assez extraordinaire.
À la citation, je crois, c'est ceux qui ne regrettent pas l'URSS n'ont pas de cœur, et ceux qui veulent la restaurer
n'ont pas de tête.
Voilà c'est ça. Hein.
Exactement.
Alors, Françoise Thom, pardon.
Eh bien, on a quand même salué la fin de l'URSS, a été appréciée, la fin pacifique du communisme, tout ça a été apprécié. Mais pour revenir à la question du rôle de l'Occident, je crois que les Occidentaux n'auraient pas pu faire grand-chose. Même les conseillers occidentaux, finalement, étaient surtout là pour la décoration. Les Russes n'en faisaient qu'à leur tête. À l'époque de Yeltsin, les jeunes réformateurs russes n'en faisaient qu'à leur tête. Et ces mécanismes de corruption se sont mis en place déjà, même encore à l'époque de Gorbatchev, et ils se sont développés pendant toute la période Yeltsin. Et les Occidentaux ne pouvaient... ils n'avaient pas non plus la lucidité qui aurait permis peut-être de s'opposer à tout ça, mais ils n'avaient pas les moyens. C'était une lame de fond. Et justement, du fait que l'État n'existait pas, qu'il n'y avait pas qu'après l'effondrement du parti-État, les premières structures qui se mettent en place, ce sont les structures criminelles. Hein. C'est un État mafieux, c'est même pas un État mafieux, c'est un agrégat de bandes criminelles qui se constitue.
Les oligarques sont...
Oui, les oligarques...
Symbolisent cet agrégat pour vous.
C'est plutôt, la combinaison, l'alliance entre les oligarques et ce qu'on appelle en russe les siloviki, c'est-à-dire les hommes des services secrets, les militaires, les hommes du KGB. Ça crée un conglomérat extrêmement efficace et dangereux. Et c'est finalement ce conglomérat qui a bloqué l'évolution de la Russie. Il est toujours en place.
La Russie est un continent où il y a des paysages tout à fait différents. Il y a ça, et puis il y a ce qui s'est mis en place aussi, en même temps. C'est-à-dire des pouvoirs régionaux, avec des gens qui n'étaient pas des voyous. Je vais vous donner un exemple, c'est l'Oural. À la tête de l'Oural, il y avait un homme appelé Édouard Rossel, qui était un fils d'ennemi du peuple, comme il disait. Tout simplement, le tout, on a des paysages locaux aussi qui se mettent en place et qui font que la Russie est sur le point de se décomposer comme s'est décomposée l'Union soviétique. Et ce dont a hérité, parce qu'il n'y a pas que le paysage criminel, il y a tout simplement la désagrégation du territoire devant cette immense révolution. Et je dirais, ce devant quoi s'est trouvé Poutine, premièrement, c'est devant la question... Qu'est-ce que je fais avec cette Russie décomposée? Comment est-ce que je recompose le pays? Et ça a été sa première mission, c'est d'essayer de reconstruire. Alors, et ce qu'il a fait d'ailleurs.
Il a voulu recomposer le pays, mais en même temps, en lui désignant quand même des ennemis, des adversaires. Et il y a un argument qui est souvent employé, en France aussi, parmi les intellectuels, les journalistes ou les hommes politiques, pro-russe, diront, c'est que l'Occident non seulement a mal accompagné la sortie du communisme, mais même a voulu profiter de la faiblesse des Russes pour humilier la Russie. Voilà, c'est, on entend ça assez souvent, avec une politique agressive, l'ouverture de l'OTAN à certains pays qui étaient soviétisés, un rôle qu'on attribue à l'Occident dans un certain nombre de révolutions oranges, que ce soit la Géorgie et l'Ukraine. Que penser de cet argument ? A-t-il une certaine validité ou s'agit-il d'une pure propagande afin de ressouder un pays qui se décompose ?
Oui, moi je me suis souvent attaqué à cet argument parce que je pense que d'abord la Russie n'a pas été humiliée, elle s'est humiliée elle-même, ce qui est autre chose, et elle a évidemment transféré ce sentiment sur le monde extérieur. Et elle s'est crue humiliée, ça j'en conviens. Et Poutine a construit son pouvoir là-dessus. Mais réellement, au contraire, la Russie a fait preuve de beaucoup d'égard à son endroit, oui. On lui a laissé son potentiel nucléaire. Hein. Elle a conservé son potentiel nucléaire. Elle a conservé son siège aux Nations Unies. Les Américains ont aidé à la dénucléarisation des républiques issues de l'URSS. On ne peut pas dire que la Russie a été humiliée par les Occidentaux. C'est très exagéré. Je dirais même que c'est un argument qui est utilisé par la propagande du Kremlin pour pétrifier les Occidentaux, pour les culpabiliser et les empêcher de réagir devant les coups de force réalisés par Poutine. On culpabilise les Occidentaux et ça a longtemps marché. Les Occidentaux sont restés paralysés pendant des années devant des coups de force qu'ils n'auraient jamais dû accepter.
À quel coup de force
pensez-vous ? Je pense déjà à la Géorgie, à l'amputation au démembrement de l'État géorgien qui a été réalisé en 2008. Ça s'est passé comme une lettre à la boîte et ça a encouragé, bien entendu, le Kremlin à continuer ce genre de comportement. Je pense que ce discours sur la Russie humiliée et offensée est profondément contre-productif. Il n'est pas du tout utile non plus pour les Russes, parce que ça permet de renforcer ce sentiment de forteresse assiégée sur lequel le régime de Poutine mise pour conforter sa dictature. Je crois qu'on a, face à la Russie, on a le premier service qu'on puisse lui rendre, c'est de dire la vérité. Il faut lui tenir un discours de vérité. Il faut lui dire les règles communes de l'humanité s'appliquent aussi à vous. Il n'y a pas de troisième voie russe. Tout ça est une illusion. Il faut devenir un pays normal comme un autre, avec des ambitions qui ne soient pas en contradiction avec les intérêts des voisins immédiats, etc.
Hélène Carré-Dancos.
Oui. Alors je dirais, moi, je raisonne tout à fait autrement. Je ne pense pas que la Russie a été humiliée. Elle s'est trouvée humiliée. Et il y a une bonne raison à ça, c'est que les choses se sont passées d'une façon que les Russes n'attendaient pas et à bon droit. Je voudrais tout de même rappeler que quand Gorbatchev a accepté la réunification de l'Allemagne, il avait posé une condition, et c'était très clair, c'était que l'OTAN, les frontières de l'OTAN ne se déplaceraient pas. Il faut tout de même avoir une vision géopolitique. On avait deux alliances. On avait le pacte de Varsovie et l'OTAN. Gorbatchev supprime le pacte de Varsovie, reste l'OTAN. On est en géopolitique, enfin, contre qui est l'OTAN ? Et Gorbatchev avait dit, l'OTAN n'avancera pas vers l'Est. Bon, on lui a dit oui, hein. Kohl lui a dit oui, James Baker a dit oui. Moi, j'ai posé un jour la question à Gorbatchev, je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait, consigné ça par écrit ? Et il m'a répondu cette chose admirable, il m'a dit, écoutez, moi je croyais qu'on était chez des gens civilisés, c'était pas des soviétiques, je pensais qu'on était dans le monde civilisé. Bon, eh ben, personne n'y a fait attention. L'OTAN s'est déplacé très rapidement vers l'Est. Et ce qu'on avait dit... Gorbatchev avait pensé qu'il préservait son pays. Vous dites, l'Occident a accepté la force nucléaire. écoutez, une force nucléaire, on ne l'accepte pas. La force nucléaire, on est obligé de le constater parce que sans ça, le voisin peut faire une bêtise. C'était, on ne pouvait pas faire autrement. L'Union soviétique était une puissance nucléaire. L'État qui en sortait une puissance nucléaire, on n'allait pas lui prendre son potentiel nucléaire parce que c'était techniquement absolument infaisable. La Russie a remplacé l'État soviétique. Elle a récupéré son siège permanent. On ne pouvait pas faire autrement. Elle était là. C'était un pays qui existait. Mais la Russie a eu le sentiment, et je crois que c'est ça le phénomène géopolitique. On avait deux super grands, et puis il en reste un. Et celui qui est resté, et ça il faut bien le dire, ça ne touche pas tellement. Les Européens n'ont pas été des acteurs de ça, il n'y a pas eu d'Europe. Moi je trouve que la grande tragédie, c'est que l'Europe a été absente de ce paysage. Mais les États-Unis ont été la grande superpuissance qui a décidé qu'au fond, ça permettait d'affirmer qu'on était seul dans le paysage. On était seul dans le paysage et l'OTAN est resté seul dans le paysage. Il a avancé vers l'Est. Alors, je voudrais souligner quelque chose aussi, c'est que Poutine, il y a eu tout de même un effort européen. Et c'est un peu ça, la tragédie. Il y a eu un effort européen. Poutine lui-même, quand il arrive au pouvoir, s'est tourné vers l'Europe. D'une façon vraiment, pendant 3 ans ou 4 ans, jusqu'en 2004. Je ne mettrai pas la révolution des roses en Géorgie, elle a moins été c'est pas une manipulation, c'est l'Ukraine. Ça, l'Ukraine est un problème tout à fait différent. La Géorgie, les Russes, ils avaient une vieille tendresse pour ça. Mais d'une tendresse d'une autre nature. Mais Poutine a commencé par faire un effort, de coopération européenne. Et ça a conduit, on a tout de même élaboré toute une politique européenne pendant 3 ans, la politique des 4 espaces, qui aurait permis de fonctionner. Cette politique s'est heurtée à quoi ? Elle s'est heurtée, c'est pour ça que je dis qu'il y a un drame européen. Elle s'est heurtée à l'élargissement de l'OTAN qui a mis les Russes hors d'eux, qui se passe à ce moment-là. Elle s'est heurtée tout autant, véritablement, à un activisme américain, notamment en Ukraine. La révolution orange a bouleversé la Russie. Ça y a bouleversé la responsabilité.
La révolution orange n'est quand même pas imputable aux manipulations américaines. Les Américains n'ont pas tiré les ficelles, c'était quand même un mouvement populaire.
Non, mais ils en ont. Ils ont activé ça. Il ne faut même pas oublier que les Ukrainiens sont la plus grande diaspora après les Polonais aux États-Unis et en Amérique du Nord. Et qu'il y a véritablement, un lien, et je comprends très bien aussi ça. Le problème, moi, je ne juge personne. Je pense qu'il faut comprendre tout le monde.
François Stom.
Alors, pour l'OTAN, d'abord, je rappelle que l'OTAN, à la fin de la guerre froide, était réformée. Et militairement, ça ne représentait plus grand-chose. C'était une structure politique. Mais militairement, les forces que représentait l'OTAN étaient minimes. On ne peut pas dire que la Russie s'est sentie menacée. Et d'ailleurs, les Russes eux-mêmes le reconnaissaient, que ce n'était pas une menace militaire pour la Russie. Donc la question est bien différente. La question de l'élargissement de l'OTAN, a forcé les Russes à reconnaître que l'ordre de Yalta n'existait plus. Parce que tant que l'Europe centrale et orientale n'était pas intégrée à l'OTAN, pour les Russes, le partage de Yalta restait dans leur tête. Et je rappellerai aussi que cet élargissement de l'OTAN a eu lieu parce que les pays concernés ont sollicité les Américains. Et ils les ont sollicités dès 1991. Les Américains ont longtemps hésité. On a créé des structures où participait la Russie, comme le COCONA, le Partenariat pour la Paix, etc. Toujours pour éviter d'humilier, comme vous dites, la Russie, de la choquer. On a eu l'OTAN, les États-Unis ont fait preuve de Bill Clinton, hésitait beaucoup et ont fait preuve de beaucoup d'égards pour éviter de déstabiliser Boris Yeltsin. Alors, j'ajouterais aussi une remarque sur les demandes d'adhésion à l'OTAN. Pourquoi ces pays ont demandé l'adhésion à l'OTAN ? Il faut bien se souvenir de ce qu'était la scène politique russe en 1992-93. Vous aviez un pullulement de formations paramilitaires dont le discours était extrêmement agressif. On se demandait si Boris Yeltsin allait réussir à tenir devant cette contestation ultra-choquée chauvine ultra militante. Et je vous rappelle que Jirinovski est en train de réaliser une ascension fulgurante. Or, Jirinovski, pendant ces années-là, se proposait d'aller jeter une bombe atomique sur les États baltes. Voilà le genre de discours qui était tenu à la Douma de Russie, ce qui explique parfaitement pourquoi ces pays ont voulu entrer à l'OTAN, pourquoi ils insistaient pour frapper à la porte de l'OTAN.
J'ai une question à vous poser. Comment expliquez-vous aujourd'hui le tropisme pro-russe d'une partie de ces pays ou de leurs dirigeants d'Europe centrale? Orban, dont la réélection est prévue ce dimanche, mais aussi le président de la République tchèque. C'est très très étrange. Est-ce que cela veut dire qu'en effet, aux yeux de certains hommes d'État, et encore une fois de certains intellectuels, la Russie apparaît comme le meilleur défenseur face aux mutations démographiques, aux dangers de l'islam radical, de la civilisation européenne? Que penser d'un tel argument aujourd'hui? François Stomme et puis Hélène Cardan-Gauze.
Moi, je crois que c'est beaucoup plus prosaïque, c'est-à-dire que les réseaux de Gazprom sont présents. Gazprom, ça représente des sommes prodigieuses, hein. Ça permet d'acheter des parlements, ça permet d'acheter des hommes politiques. L'arme énergocratique, hein, j'appelle ça l'énergocratie russe, elle est efficace, et elle est efficace dans des États encore assez vulnérables. Les États post-soviétiques sont vulnérables à la corruption. Plus que les nôtres, encore que cette arme, elle s'exerce aussi chez nous. Mais ces États sont plus vulnérables, et donc le poids de ces fonds a une importance colossale. Hein, le poids de cette influence financière.
Je dirais, nous ne sommes plus en 1990. Les sociétés existent dans tous ces pays-là. Il n'y a pas que les États. Moi, j'entends tout le temps dire l'information est muselée. Ça me fait rire. L'information est muselée, il y a l'Internet, et tout le monde a l'Internet. Et à part les Chinois qui savent contrôler l'Internet, personne d'autre ne sait le contrôler. Bon, c'est-à-dire que ce ne sont plus les sociétés aveugles et sourdes et muettes de la période communiste. Si les sociétés... Je veux dire, la peur de ces États, la peur du phénomène migratoire qui est extrêmement important dans l'élection d'Orban, c'est tout à fait clair, ça joue un rôle considérable. Et derrière ça, la peur de ce qui a été le passé, c'est-à-dire le système mongol qui a menacé tous ces pays. Dans la conscience historique des gens, et ça existe, il y a le souvenir tout de même de ce que représente l'immigration, de ce que représente l'islam. Ils sont tout à fait conscients qu'il existe un phénomène, et notamment, alors pour la Russie, c'est un vrai problème, la montée de l'islam. Même si la Russie sait a su faire avec jusqu'à présent, mais c'est un phénomène absolument décisif, et les sociétés y pensent. Mais je crois qu'il ne faut pas... Les États, on parle des États, on n'est plus dans l'époque où il n'y a que des États. Il y a des citoyens aussi qui sont, malgré tout, qui ne sont pas complètement idiots, ils font ce qu'ils veulent, ils votent, même si les élections sont un peu truquées. Bon, elles sont un peu truquées, mais je dirais qu'il y a des tas de moyens de peser sur les électeurs. Les sondages occidentaux sont un moyen de trucage des élections aussi. Quand on dit aux gens que telle liste attend de machin, on finit par détourner les votes. Enfin, je crois qu'il faut que nous fassions très attention. D'ailleurs, François Stomme, moi, ce que j'ai été très frappé par le dernier chapitre de votre livre. Vous dites, et je trouve que là, vous avez tout à fait raison, nos sentiments à l'égard de la Russie, c'est la peur, je dirais... Nous voyons nos propres, nous voyons dans un miroir, nous voyons notre propre évolution. Et je crois que c'est ça qui est fondamental. Car en effet, il y a un rapprochement extraordinaire entre, je dirais, les faiblesses de ce pays et notre propre évolution. C'est ça qui me paraît...
C'est-à-dire
La disparition du sens, l'individualisme effréné, la disparition de tout sentiment citoyen, la disparition de toute conscience politique. Enfin, les dernières pages sont saisissantes là-dessus. Nous voyons véritablement notre propre dégénérescence politique Et nous nous disons, c'est ça qui est notre qui nous guette.
C'est notre avenir possible.
Absolument.
Oui, je pense que c'est la raison pour laquelle il faut s'intéresser à l'histoire russe, hein, comme disait Tchadev déjà au XIXe siècle. C'est une espèce de leçon pour les pays, pour les autres pays, des dangers qui peuvent exister et des évolutions qui peuvent les menacer.
Mais que fait Poutine aujourd'hui?
Ce que montre le régime de Poutine, oui, c'est l'efficacité de la manipulation politique. C'est un régime qui est à la fois archaïque, mais très moderne aussi, qui maîtrise parfaitement les théories les techniques de manipulation en russe on appelle ça PR, public relations, de communication, la communication. C'est un régime qui repose sur la communication et qui est allé beaucoup plus loin même que nous dans cette direction.
Vous avez des exemples de manipulation, par exemple.
Les élections reposent sur cette communication, sur ces techniques de communication.
Ça veut dire
de manipulation. Toutes les élections qui ont été réalisées depuis 1996, la première élection qui a été réalisée de cette manière, c'est celle de la réélection de Boris Yeltsin en 1996.
Oui, mais alors, il manipule pour être réélu, mais que veut-il une fois élu? C'est-à-dire, que veut Poutine pour la Russie? S'agit-il d'assurer à cette société une vie décente? A-t-il d'autres finalités? Veut-il, d'une certaine manière, reconstituer l'Empire? Parce qu'il ne se serait pas résigné à ce que la Russie soit une nation, même immense parmi d'autres nations. Quelles sont les finalités du poutinisme?
Les finalités sont des finalités de puissance. C'est par ça que le régime tient la population. La différence entre la période Yeltsin et la période Poutine, c'est que pendant la période Yeltsin, les oligarques pillaient la Russie et étaient présentés un peu comme des éléments extérieurs, hein, au service des États-Unis ou de l'Occident, alors que sous Poutine, le pillage de la Russie continue, et même dans des proportions encore bien plus grandes, mais il est organisé sous des slogans patriotiques. Les oligarques sont présentés comme des patriotes qui défendent les intérêts russes à l'étranger, qui organisent, par exemple, la pénétration de l'Ukraine, qui subventionnent les mercenaires en Syrie, etc. Donc, les oligarques ont la possibilité de prendre un hobby patriotique, comme je dis, de façon à ce que la population russe accepte d'être dévalisée, sans protester.
Avec la compensation
dans la puissance. C'est le nœud du régime poutinien.
Puissance plutôt que vie décente. Seriez-vous d'accord avec cette analyse, Alain Carrère-Lambros?
L'économie, Poutine l'a ratée, comme Medvedev l'avait ratée. Bon, ils n'ont pas su reconstruire, ils ont vécu de la rente pétrolière, ça c'est pas la peine d'insister dessus. Ils savaient qu'il fallait sortir de la vie sur la rente pétrolière, comme il fallait sortir de la corruption. Ils n'y ont pas réussi. Mais je dirais les choses autrement. Je dirais que Poutine, il s'est trouvé dans des objectifs précis. Il a eu un pays complètement en charpie quand il est arrivé en 2000, et absolument déconsidéré, et pas déconsidéré parce qu'il se déconsidérait, mais déconsidéré parce que ça a été systématique. Il ne faut tout de même pas oublier qu'on n'a pas réuni, et je crois que c'est un symbole, qu'on n'a pas réuni le Conseil de sécurité avant de bombarder la Serbie pour bien montrer que la Russie n'existait pas sur la scène internationale, alors qu'elle était membre du Conseil de sécurité. Bon. Poutine avait d'abord pour première tâche d'empêcher la décomposition du pays. Il l'a fait avec brutalité, mais c'est vrai que le pays, il a réussi à recentraliser, beaucoup dire. Enfin, avec les diverses réformes, il a réussi tout de même à maintenir le pays. Deuxième objectif, faire que le pays existe sur la scène internationale. On n'oserait pas aujourd'hui réunir le Conseil de sécurité en n'étant pas sûr que la Russie n'y serait pas. Ça, c'est terminé, cette période. On dit qu'est-ce que pensent les Russes, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Bon, ça, c'est la seconde fonction. C'est une politique de puissance, en effet. C'est un pays. Alors, je ne dirais pas qu'il veut reconstituer l'ensemble de l'ancien espace soviétique. Ce qu'il a, le désir incontestablement, il l'a hérité de Boris Yeltsin, c'est de maintenir les liens avec l'Ukraine. Ah oui. Ça, malheureusement, c'est un problème tragique parce que l'Ukraine, c'est, je dirais pour la Russie, c'est elle-même, enfin c'est sa propre chair. Et c'est vrai que dans toute famille russe, il y a un Ukrainien, tout ce qu'on voudra. L'Ukraine n'est pas une république comme étaient les autres républiques. L'Ukraine, c'est une part de l'histoire. Les uns sont une part de l'histoire des autres. Bon, je dirais que les Ukrainiens considèrent qu'ils ne sont pas des Russes. Les Russes considèrent qu'ils sont des Ukrainiens. Ça rend les choses très compliquées. Ce sont deux regards différents sur leur passé. Mais néanmoins, la question ukrainienne est fondamentale. Et je dirais que ce qu'il faut observer après la réélection de Poutine, c'est dans quelle mesure il est capable, je dirais, d'apaiser le problème ukrainien. Bon, mais enfin, il a remis en selle son pays. Et c'est pas seulement, je dirais, pour la richesse, c'est pas une politique de puissance de personnel, c'est tout de même la puissance de son pays. Je crois pas qu'on puisse enlever à Poutine l'idée qu'il aime son pays. Il aime son pays, il a le sens de l'histoire de son pays, de ce que ça représente. Et la distance parcourue depuis 1992-93 est réelle. Et il peut s'en féliciter. Les méthodes, ça c'est un autre problème, et on pourrait en discuter à l'infini, mais il a réussi son pari sur ses plans.
François Stom,
oui, mais est-ce qu'il s'agit vraiment des intérêts nationaux de la Russie que de, par cette une politique systématique d'affrontement des voisins, de se mettre à dos tous les pays qui sont sortis de l'Union soviétique? Est-ce que cette politique d'affrontement de l'Occident est dans les intérêts nationaux russes? J'en doute beaucoup. Je pense que le problème de Poutine et le problème des hommes du Kremlin, de ceux qui sont proches de lui, c'est qu'il a une conception totalement archaïque de la puissance. Il pense que la puissance, c'est le contrôle du plus large, de plus large territoire possible. Et donc, il pense en empire. Le problème de la Russie, c'est qu'elle ne se pense pas en nation. Voilà. Elle se pense en empire. Il conçoit les buts de sa politique comme des buts de politique impériale du 18e siècle, c'est-à-dire placer des élites qu'il contrôle à la tête des territoires périphériques.
Et c'est ce que vous dites d'ailleurs dans la postface du livre Histoire de la Russie de Nicolas Yassanovski. Vous écrivez, et j'aimerais là encore votre commentaire à l'une et à l'autre, la Russie n'a pas seulement à sortir du communisme, elle doit aussi se purger de l'habitude du messianisme et du refus de se penser en État-nation. C'est pourquoi l'émergence d'un État ukrainien solide et prospère au cœur de l'Europe est essentielle à la paix future du continent. Sans l'Ukraine, la Russie cessera d'être un empire et devra prendre congé de ses visées messianiques, dangereuses pour l'ordre européen et ruineuses pour elle. Elle pourra alors se concentrer au développement de son économie et à la guérison de sa société.
Oui, c'est exactement...
C'est donc le grand test de l'Ukraine.
C'est ça. Et je pense que pour la renaissance de la Russie, c'est essentiel. Justement, qu'elle comprenne que la grandeur d'un État, c'est pas son étendue géographique, mais c'est sa capacité à développer sa population, à enrichir et à développer surtout sa population. Alors que là, le régime de Poutine, il a condamné à l'exil les élites de la Russie. Des millions de Russes ont quitté la Russie sous Poutine et sont les Russes instruits qui ne peuvent pas vivre dans ce climat de haine chauvine, de propagande débilitante que ce régime a mis en place.
Je crois que la Russie ne se conçoit plus comme empire. La Russie se conçoit comme Russie. Et je pense que la notion d'empire est tout à fait dépassée. Ce qui compte pour Poutine, et son pouvoir personnel est une affaire, ça c'est, mais essentiellement, c'est l'intégrité de cet espace. Alors la question ukrainienne, elle est tout à fait spécifique. Il ne faut tout de même pas oublier qu'en 1991, à l'heure véritablement de la séparation, et là, les textes sont là, Eltsine a tout lâché aux Ukrainiens. Il leur a lâché la Crimée, qui n'était pas obligé de leur lâcher. Il leur a lâché Sébastopol, qui n'était même pas dans la carte, en disant: il faut sauver nos relations avec les Ukrainiens. Et on peut dire que ça a marché malgré 2004, malgré la révolution orange, ça a marché jusqu'à 2014. Mmh. Et ça s'est détruit en 2014.
C'était une politique de sagesse, justement.
C'était la volonté de maintenir les liens avec l'Ukraine à n'importe quel prix. Je dirais que c'est là qu'il y a une politique occidentale qui a tout de même été assez fâcheuse. Il faut bien reconnaître que 2014, enfin, les conditions dans lesquelles s'est passée la négociation de 2014, où on a laissé les Ukrainiens faire Il y a une responsabilité des Occidentaux. Enfin, trois ministres des Affaires étrangères étaient là pour faire signer un accord. Ils le font signer, ils s'en vont tranquillement, en laissant les Ukrainiens déchirer l'accord aussitôt après.
Vous parlez de l'accord sur le nucléaire ?
Non, pas du tout. Non, 2014, les accords sur le nucléaire.
Ah, 2014, oui, je pensais 94.
On était très loin.
Je pensais qu'on était encore...
C'est 1991, et ça, ça fait partie, je dirais, précisément du deal de 1991. Les documents sont là, hein, il faut pas... Bon, pourquoi est-ce qu'on a laissé... On a dit on va faire une médiation. Enfin, qui est-ce qui a vu qu'on fasse des médiations en faisant ce qu'a fait notre ministre des Affaires étrangères qui est même parti sans signer quoi que ce soit et les autres qui les ont plantés là et qui ont laissé les Ukrainiens déchirer les papiers. Ce ne sont pas des manières de procéder. On a laissé le feu alors que quelque chose était en train de s'arranger. Ce que je dis moi simplement, je ne crois pas, je n'ai pas l'esprit conspiratif. Je voudrais ajouter que je ne crois pas. Alors, ne m'envoyez pas si je dis, vous parlez de poutinisme. Je vous fais un grand honneur à Poutine. Marx disait, nos adversaires nous traitent de marxistes, mais malgré tout, ça veut dire qu'on a créé quelque chose. Je ne crois pas qu'il existe un poutinisme. Je crois qu'il existe un type pratique, pragmatique, qui avance en regardant les problèmes, bien ou mal, mais qui n'a même aucune idée globale à part l'idée qu'après tout, il veut que son pays soit puissant.
Un mot pour conclure, François.
Oui, je suis bien d'accord que le terme poutinisme, je l'ai employé pour désigner justement la mentalité et cette pratique politique qui est inspirée du KGB. Et ça existe malheureusement. Et les décisions qui ont été prises ces dernières années ne vont absolument pas dans l'intérêt de la Russie, ni dans l'intérêt d'ailleurs des bonnes relations entre l'Ukraine et la Russie. C'est Poutine quand même qui a réussi à brouiller les Russes et les Ukrainiens, ce que Boris Yeltsin avait évité de faire.
Bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. L'Ukraine mériterait une autre émission. Elle aura sans doute lieu. En tout cas, je voudrais d'abord rappeler les titres de vos livres. François Stomme, Comprendre le poutinisme. Il est publié chez Desclés de Brouwer. Hélène Karadanko, Ce général de Gaulle et la Russie, aux éditions Fayard. Une précision avant de rendre l'antenne. La semaine dernière, j'ai attribué à Bossuet un texte magnifique sur la disparition à venir de la langue française que je savais être de Chateaubriand. Je ne m'explique toujours pas ce lapsus et je prie les auditeurs de m'en excuser. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Métamorphose de la méchanceté ». Mes invités sont Adèle Von Rett et François Jost. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Bernard Laniel. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.